Chacun. Merci à toute l'équipe de louanges. On avait quoi, six ou sept musiciens ce matin? Incroyable, gloire à Dieu, hein? C'est vraiment bon. Dieu bénit notre Église, là. Tellement de talent. Merci Jean-François de nous avoir conduits dans la louange, un bon temps de louange. Eh bien, je lisais cette semaine un article qui montrait, c'était une entrevue dans le fond, partageait une entrevue avec un psychologue d'expérience qui racontait que l'une des questions qui se fait poser souvent par ses clients, lorsque le psychologue demande, habituellement la première entrevue, c'est surtout une première rencontre, le psychologue veut comprendre un peu quel est le but, la motivation du client de visiter, de consulter le psychologue. Alors, l'une des questions que le psychologue va demander, quelle est la motivation de venir ici, quel est ton but, qu'est-ce que tu veux atteindre? Et l'une des questions qu'il va entendre assez souvent, c'est « je veux savoir qui je suis, je veux me connaître, je veux vraiment savoir qui je suis vraiment ». Et ça, ça rapporte vraiment au sujet que nous sommes en train de regarder ensemble depuis, je pense que ça fait 2 semaines qu'on a commencé, toute cette question de l'identité. Les gens veulent savoir qui ils sont. Quand on parle d'identité, on parle justement, comme on l'a expliqué il y a 2 semaines, on parle de notre perception de soi, comment on se voit. Et ça, c'est vraiment, ça touche la question de l'identité. Les gens veulent savoir. Ils veulent savoir qui ils sont. Ils veulent se comprendre et se connaître. Mais les gens vont chercher à différents endroits pour essayer de comprendre qui ils sont et de comprendre leur identité. Et ce qu'on est en train de découvrir depuis quelques semaines dans cette série, depuis qu'on a commencé, c'est que vraiment, c'est dans les Écritures, c'est dans la Bible qu'on va avoir une perception juste de ce que c'est que notre identité. Surtout que la Bible dit que celui qui vient à Jésus-Christ par la foi a une nouvelle identité. Son identité change. Il y a une nouvelle identité. C'est tout à fait nouveau. Je ne sais pas si vous connaissez, ils servent de ça pour faire de la publicité en marketing. On appelle ça la fenêtre de Jouhari. Il y en a certainement qui ont appris ça à l'université ou au cégep. En marketing, on va s'en servir en communication. Ça relève un peu de psychologie aussi. Et ils disent, la fenêtre de Jouhari dit ceci, qu'il y a 4 fenêtres. Ce que je vois et ce que les autres voient pareil. Par exemple, j'ai les cheveux gris et vous êtes d'accord avec moi. On s'entend, d'accord? Alors, ce que je vois de moi-même et ce que les autres voient de moi. Il y a la deuxième fenêtre, ce que je vois et ce que les autres ne voient pas. Parce que, par exemple, moi, je sais, à quelque part, j'ai des muscles, mais les autres ne voient pas nécessairement. C'est caché, là, c'est bien rembourré. Alors, ce que je ne vois pas, ça, c'est la troisième fenêtre, ce que je ne vois pas et les autres voient. Et quatrième fenêtre, ce que je ne vois pas et ce que les autres ne voient pas. Ça arrive. Bien, moi, ce matin, j'aimerais ouvrir, chambarder un peu cette théorie de Jouhari et j'aimerais ouvrir une cinquième fenêtre. Parce que c'est ça qui arrive ici. Dans le passage que nous allons voir ce matin, c'est une cinquième fenêtre. C'est la fenêtre de Dieu qui te dit, « Laisse-moi te montrer comment moi je te vois. » Alors, laisse-moi te montrer ta nouvelle identité en Jésus-Christ. Et on est en train de regarder le passage qui va nous intéresser ce matin. C'est justement une fenêtre, selon Dieu, de ce que nous sommes. Peut-être qu'on ne le voit pas. Les autres, peut-être, ne le voient pas. Mais Dieu est en train de dire, « Voici qui tu es maintenant que tu es un de mes enfants. » Parce que nous avons une nouvelle identité maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. Dans 2 Corinthiens 5, 17, voici ce que ça dit. Ça dit, si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle, il est une nouvelle créature. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Alors, pour nous aider à comprendre notre nouvelle identité en Jésus-Christ, on a décidé de tourner dans la lettre qui a ça pour objet, qui a ça pour but, la lettre de Paul aux Éphésiens. C'est le but de la lettre, au dire de Clinton Arnold, comme on l'a vu il y a 2 semaines, qui dit que la lettre de Paul aux Éphésiens a pour but d'affermir les croyants dans leur nouvelle identité en Jésus-Christ comme moyen pour les fortifier, pour nous renforcer. Alors, Dans le fond, pourquoi Paul, pourquoi Dieu inspire l'apôtre Paul à écrire cette lettre? C'est justement pour nous renforcer, nous fortifier, en nous faisant comprendre, en nous faisant voir notre identité à travers la cinquième fenêtre, qui est la fenêtre de Dieu, en nous dévoilant ce que nous sommes maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. C'est là que nous sommes en train de regarder notre identité. Comme on l'a dit, Mark Driscoll a écrit un livre où il fait ressortir 14 aspects qu'il voit à travers la lettre aux Éphésiens que nous sommes en train de voir ensemble et sur notre identité. Le premier aspect de notre identité se trouve dans les deux premiers versets. Moi, j'aimerais vous encourager à tourner dans la lettre aux Éphésiens, venir me rejoindre, si vous voulez bien, Éphésiens chapitre 1. Et dans les prochains mois et les prochaines semaines, ce que nous voulons faire, nous voulons traverser la lettre aux Éphésiens. Donc, on va toucher différents aspects d'identité. Ça va toucher différents sujets, comme même la famille, qu'on va voir au chapitre 5, chapitre 6, des relations de travail, tout ça. Ça a un impact, notre identité, la façon qu'on se perçoit à la lumière de Dieu, comme, selon la fenêtre de Dieu. Donc, Éphésiens chapitre 1, versets 1 et 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus. On va arrêter notre lecture ici et on veut juste dire qu'il y a deux semaines, ce que nous avons commencé à regarder, c'est la première chose que nous avons vue, c'est que comme enfant de Dieu, comme un nouveau disciple, voici ce que je suis, voici comment Dieu me décrit à travers sa fenêtre à lui, ses yeux à lui, c'est que premièrement, je suis saint. Et ça, on a dit que c'était vraiment particulier, parce qu'on n'entend pas souvent parler de ça. Je suis saint. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. Le mot « saint » veut dire « mis à part » dans l'original. Ça veut dire « complet ». Et c'est ce que nous sommes maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. Notre position devant Dieu maintenant, c'est que nous sommes déclarés saints grâce au sacrifice de Jésus-Christ qui nous a transféré sa sainteté à la croix, lorsque nous plaçons notre foi en lui. D'accord? Alors, premièrement, je suis saint. La deuxième chose que nous allons voir, le deuxième aspect de notre identité, c'est que nous sommes bénis. Nous sommes vraiment bénis, vous et moi, enfants de Dieu, nous sommes bénis. Nous allons nous arrêter sur cet aspect-là ce matin, nous allons nous concentrer là-dessus, de voir les bénédictions que nous avons reçues. Maintenant, pour ce faire, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va commencer, on va juste prier, et après ça, on va lire le passage qui va suivre. D'accord? Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour nous. Et ce matin, nous sommes en train de regarder toutes ces bénédictions que tu nous as données. Et nous te prions que tu puisses opérer dans nos cœurs des changements, que tu puisses imprimer ces réalités, ces vérités qui nous sont données aussi dans nos cœurs, qu'on puisse vivre en fonction de ces vérités qu'on veut inculquer ce matin dans nos vies, que ça se traduise dans chaque aspect de nos vies, de nos relations au niveau de la famille. Seigneur, on n'est pas n'importe qui. Et c'est ce que tu es en train de dire dans cette lettre. Nous sommes tes enfants. Et pour ceux qui ont placé leur foi en toi, en Christ, Seigneur, nous sommes tes disciples. Et nous voulons te plaire. Et nous te remercions, Seigneur, que ton esprit nous aide à vraiment voir ce que les richesses de cette portion des Écritures que tu es en train de dévoiler ici par la plume de Paul, au nom de Jésus. Amen. Alors moi, je vous invite à tourner dans le chapitre 1, si ce n'est pas encore déjà fait, et on va lire le verset 3, à partir du verset 3. Maintenant, on va lire un long passage, on va lire des versets 3 jusqu'au verset 14, et il y a une raison pour ça, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Alors, chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque les temps seront accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre. À lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Quel passage! Je suis béni. C'est ça que ça dit. Tout ce passage-là dit, eh, bon sang, que je suis béni. Et c'est ça que ça dit ici. C'est ça que le Seigneur veut que l'on comprenne dans ce passage. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce passage-là, les versets 3 jusqu'au verset 14, dans le texte original, c'est une longue phrase. Et ça, c'est rare. Une longue phrase. Maintenant, les experts en communication nous disent que habituellement, plus que la phrase est courte, plus que c'est clair et facile à comprendre. D'ailleurs, on va même dire tant de mots dans une phrase, c'est à tel niveau d'éducation, tant de mots, et rendu à 10 mots et plus, quand tu t'en vas vers les 10 mots, 15 mots, 20 mots, là, tu es rendu au niveau universitaire en termes de communication. D'accord? C'est rendu plus complexe et difficile à comprendre. Maintenant, ce passage, vous savez combien il y a de mots dans ce passage, dans le texte original? 202 mots. C'est une longue phrase dans l'original. Une longue phrase. Là, tu te demandes, mon Dieu, c'est comme... Mais c'est, la raison est bien simple, c'est que l'apôtre Paul est capable de s'arrêter. L'apôtre Paul est tellement, son cœur est tellement rempli, vous allez comprendre pourquoi, tellement rempli de joie, tellement excité, qu'il écrit, il écrit, il écrit, il déferle, il déferle, il déferle tout ce qu'il a, toutes les bénédictions de Dieu, et son cœur est rempli. Alors, il va dire, regardez ce que Dieu a fait, ce que Dieu a fait. Ah, puis il a fait ça, puis il a fait ça, puis on est béni à cause de ça. Et mon Dieu, on a ça, puis on a ça. Puis là, finalement, tu arrives au bout de ligne, tu es rendu après 202 mots. C'est comme, ah, je vais mettre un point. je vais arrêter, là. 202 mots dans l'original. Et par cette longue phrase, Paul est en train de nous donner le plan global, parce qu'il est en train de nous décrire le plan global du salut, puisqu'on a eu, ce qu'on a reçu, les bénédictions qu'on a eues à travers le salut quand on a accepté Jésus-Christ. Toi, tu ne sais pas, la personne, tu présentes l'Évangile, tu ne sais pas tout ce qu'il y a, hein? Tout ce que Dieu a fait et va faire dans la vie de cette personne-là, c'est incroyable, la personne ne réalise pas. Mais ça, c'est les richesses que nous avons ici dans ce passage. cette phrase, c'est comme l'Évangile du salut. Même Paul le dit au verset 13, dans le même passage, il va dire au verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve. » C'est ce que Paul est en train de faire ici, inspiré du Saint-Esprit, dans les versets 3 à 14. Mais il nous le présente selon le point de vue de Dieu. À travers la fenêtre, comme on l'a parlé tantôt, à travers la fenêtre de Dieu, le regard de Dieu. Parfois, une personne peut regarder ce qui lui arrive, et quand tu regardes les circonstances autour de la personne, tu peux dire, bien franchement, il me semble, je ne me vois pas béni par les choses que je vois autour de moi, par mes yeux, parce que les circonstances ou les épreuves que je peux voir, que je peux vivre autour de moi, je peux ne pas me sentir béni. Et ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire ici, me regarde, c'est parce que tu ne regardes pas à travers la bonne fenêtre. Oui, c'est sûr qu'il y a des situations qui sont tragiques et sont difficiles, absolument. Et ça fait mal, il y a des douleurs, il y a de la souffrance là-dedans. Mais ce que le Seigneur veut faire, veut nous aider à sortir de ce découragement-là et voir les événements à travers la fenêtre de Dieu. Nous, on peut regarder à travers ce qui se passe à travers notre fenêtre, comment on voit les choses. Ou on peut regarder à travers la fenêtre des autres, comment les autres interprètent ce qui se passe autour de nous. Tu peux travailler avec des gens au travail, puis les gens vont te parler, ils vont te décrire la vie, etc. Ils vont te donner une vision du monde, de ce qui se passe, ou même de ce qui se passe dans leur vie ou dans ta vie. Et ça, c'est leur fenêtre. Et ils le vivent. Et on vit les situations qui sont difficiles. Le Seigneur veut nous emmener ailleurs. Il veut nous emmener, il veut dire, écoute, sans cacher ce qui se passe, c'est sûr. La Bible ne nous dit pas de faire comme s'il n'y avait pas de problème. Absolument, on a déjà vu ça la semaine dernière avec le message qu'on a donné. Non, mais en même temps, nous avons besoin, on ne veut pas rester là. On veut se sortir de ça, de ce découragement-là qui nous écrase et voir à travers la fenêtre de Dieu. Maintenant, à travers quelle fenêtre regardes-tu ta vie en ce moment? On doit constamment revenir regarder la vie, notre vie, à travers la fenêtre de Dieu. Et c'est ça qui va remplir notre cœur de la joie du Saint-Esprit. Que notre cœur, qui est découragé, parfois brisé, va pouvoir retrouver de la joie et de la paix. C'est si on commence à regarder la vie et ce qui se passe à travers la fenêtre de Dieu. Et c'est ça le message de ce passage, c'est de nous emmener là, de nous aider à nous emmener là. Regardez comment l'apôtre Paul déborde, lui qui est en prison, il déborde d'une joie. Il était humain, l'apôtre Paul, on le voit découragé à différents endroits, ce n'était pas un homme bionique. Il vivait des choses, il éprouvait des difficultés, des abandons, du rejet. Il a même été fouetté par moments, c'était décourageant. Et pourtant, qu'est-ce qui fait que ce bonhomme-là réussit à retrouver de la joie? Alors regardez comment est-ce qu'il est débordant de joie, là. Regardez le verset 3, chapitre 1, verset 3. Il dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction. » Le même mot dans l'original, trois fois, il revient dans le même verset. « Béni, béni, béni. » D'accord? Bénir veut dire quoi? Ça veut dire faire du bien. Alors, quand tu bénis Dieu, tu dis du bien de Dieu. Dans le fond, c'est ça que ça veut dire, tout simplement. On a béni Dieu tantôt. On a chanté des cantiques. On a élevé son nom. On a parlé des choses qu'il a faites. Alors, on bénissait Dieu en parole. Dieu, lui, quand il te bénit pas juste en parole, il te bénit aussi à pourvoir aux besoins chaque jour. Il est en train de te bénir, à te protéger. Il est en train de te bénir. Et c'est faire du bien. Alors, Paul dit, béni soit le Dieu. Ah, il dit, je bénis Dieu. Je veux juste dire du bien de Dieu. C'est ça que Paul est en train de dire. Je bénis Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, qui nous a fait du bien, de tous les biens spirituels, de toute bénédiction spirituelle dans les cieux célestes, dans les lieux célestes en Christ. Trois fois, béni, béni, béni. Avez-vous marqué? Ça, c'est son cœur. Débordant de joie. Bénir, en d'autres mots, Dieu nous a fait du bien. L'émotion de l'apôtre Paul est palpable. On sent sa joie, son excitation. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. En d'autres mots, on a un Dieu qui bénit. On a un Dieu qui aime faire du bien. On a un Dieu déjà dans la création qui faisait du bien. C'est vraiment intéressant lorsque tu ouvres les premières pages du livre de la Genèse et là on a le récit de la création. Nous lisons verset 27 et chapitre 1, là, c'est le premier livre de la Bible, Genèse 1, premier livre de la Bible. Déjà, qu'est-ce qu'on voit? Nous lisons « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme » et verset 28, « Dieu les bénit ». On a un Dieu, déjà la création, on voit un aspect, un attribut de Dieu, une qualité de Dieu, c'est qu'il aime faire du bien. Déjà là, il n'y a pas personne qui a demandé ça, c'est pas Adam et Ève qui a commencé à prier puis a demandé « Bénis-nous ». Et c'est correct faire cette prière. Mais en même temps, il faut réaliser que nous avons un Dieu, contrairement aux idoles et dans les autres religions qu'on peut entendre, où il faut toujours essayer de manipuler les dieux, il faut essayer d'offrir des choses pour essayer de manipuler leur bonté, leur grâce, pas avec Dieu. Dieu intrinsèque, en lui-même, Dieu est bon, Dieu aime faire du bien. C'est le genre de Dieu que nous avons et qui s'est révélé dans les Écritures. Contrairement à ce qu'on peut entendre. Tu regardes ailleurs, tu entends des religions et tout ça, et il faut toujours donner, faire des sacrifices, même dans certains cas, se mutiler. On voit ça, hein? À un moment donné, Élie dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était rendu avec des idoles, avec Baal, et de temps en temps, il servait Dieu, de temps en temps, il servait des idoles comme Baal. Et là, le prophète Élie a lancé un défi. Il dit, on va faire une affaire d'abord. Tiens, on va faire un sacrifice. Puis si votre Dieu, parce que Dieu voulait leur montrer à travers le prophète Élie, je vais vous montrer comment c'est ridicule. Puis votre idole, c'est juste du bois. C'est pas un vrai Dieu. Il n'existe pas. Vous êtes en train d'adorer du bois ou de la roche. C'est pas le vrai Dieu de la Bible. Je vais vous le prouver. On va vous lancer un défi. Tiens, emmenez tous vos prophètes. Ce sont 400 quelques prophètes. Emmenez-les tous, là. Allez, moi, je suis tout seul. Emmenez toute la gamme de prophètes. commencer à invoquer votre Dieu, puis on va faire une affaire, on va faire un sacrifice, et sans l'aide d'aucune main humaine, on va demander à ce Dieu-là de faire un miracle, puis de faire que ce sacrifice-là soit en feu, puis brûle, et ça devienne une offrande. Alors, toute la gang convoque les prophètes, ils sont 400, ça prie, puis tout ça, et pendant des heures, ça prie, ça demande à leur idole, tiens, viens fais un miracle, prouve que tu es le vrai Dieu. Puis là, il n'y avait absolument rien, les heures passaient, là, puis Élie était là. Je suis patient, là, mais écoute, c'est ridicule, là. Puis là, ça priait, puis tout ça, et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit dans le texte? On voit ceci, ils ont commencé à prendre des couteaux, puis des lames, commencer à se couper, puis se faire saigner. Et ça l'ajoute un petit détail bien important, selon leur coutume. Ils faisaient ça régulièrement pour essayer d'avoir la faveur de l'idole de Baal, se couper, puis se faire saigner, espérant que leur idole réponde. Il n'y a même pas eu besoin de rien faire ça. Juste une parole. Puis, tiens, montre-leur, c'est qui est le vrai Dieu. Paf, le feu qui descend, il y avait même de l'eau, tout ça, tout a brûlé. Regarde, c'est lui le vrai Dieu. Et c'était la même chose, non seulement dans l'Ancien Testament, c'est comme ça même dans le Nouveau Testament, même dans la ville d'Éphèse. La ville d'Éphèse, il y avait des religions à mystère, des religions étranges. Ils ont même découvert des lettres d'une religion qui s'appelle Ephesia Grammata, c'est les écritures qu'ils ont découvert, qui parlent d'occultes secrets, des religions occultes, secret, mystérieux, où on avait des incantations, des mantras. On a découvert d'ailleurs dans les lettres 6 mots qui sont intraduisibles, on ne peut pas les traduire, et on pense que c'était des mots qu'on donnait comme une formule magique pour essayer de manipuler les esprits occultes, de les bénir. D'ailleurs, c'était tellement fort, tellement populaire, c'était tellement gros, c'était rendu toute une business, ça influençait même l'économie de la ville. Et là, lorsque les disciples ont commencé à prêcher l'Évangile, les gens ont commencé à se convertir. Puis là, ils ont dit, écoute, ça n'a pas de bon sens ce qu'on faisait là. Puis ils ont commencé à acheter leurs livres, à brûler leurs livres. Ils ont eu littéralement une crise économique dans la ville. Parce que les gens lâchaient leur rituel occulte. On lit d'ailleurs dans Actes 19, 17, ça dit ceci, « Cela fut connu de tous les habitants d'Éphèse, il y a eu un miracle, juifs et non-juifs, la crainte s'empara de tous ceux, de tous, et on célébrait la grandeur du nom de Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Les gens venaient tous jeter leurs livres occultes, leurs livres d'astrologie et tout ça. Alors, notre Dieu n'a pas besoin d'être manipulé pour bénir. Le mot hébreu, c'est barak, qui veut dire bénir. Et oui, effectivement, vous devez penser à quelqu'un quand on parle de barak. Hein? Vous connaissez Barack Obama, et c'est ça ce que ça veut dire. Chaque fois que Barack se présente, il dit « Je suis barak », il dit « Je suis béni ». Parce que ça vient du mot hébreu, justement, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire le bien, faire du bien. Dieu m'a fait du bien. Alors, on n'a pas à manipuler Dieu pour nous accorder des baraques, nous accorder la bénédiction, nous faire du bien, donner des bénédictions. D'ailleurs, c'était le point que Jésus donnait lorsqu'il parle dans Matthieu 7, 11. Il dit, « Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Si vous êtes pécheur, vous avez des enfants, vous cherchez à faire du bien à vos enfants, vous les aimez, combien à plus forte raison notre Père céleste, qui est parfait, aucune tache, aucune jalousie en lui, de méchanceté, d'envie, son amour est pur à 100%, combien à plus forte raison il va faire du bien, si vous le lui demandez, il va bénir. C'est ce qu'il est, Dieu. Il est un Dieu de bénédiction. Alors, Paul commence en bénissant Dieu, car il nous a bénis. Dieu nous a bénis. Et c'est pour ça qu'on veut le chanter, l'adorer, le remercier. Alors, Paul dresse une liste de ce que Dieu a fait pour nous. D'abord, on a la bénédiction de la présence de Dieu lui-même avec nous. Il dit, j'ai la bénédiction d'avoir Dieu. Si quelqu'un venait, puis t'offrait, puis te demandait... Fais un vœu, puis je vais te donner ce que tu veux. N'importe quoi, tu peux demander n'importe quoi. C'est quoi que tu demanderais? Demanderais-tu de l'argent? Demanderais-tu quoi? Une femme? Un homme? Qu'est-ce que tu demanderais? Bien, Dieu nous a fait le don le plus précieux qui soit, il s'est donné lui-même. Il est allé au summum de ce qu'il pouvait te donner, il s'est donné lui-même. Et c'est la première chose qu'on voit ici. Paul commence en démontrant que les bénédictions que nous avons relèvent de notre union d'abord avec Christ. C'est vraiment intéressant dans tout le passage qu'on voit, on lit, verset 3 jusqu'au verset 14, on va voir plus de 14 fois le mot Jésus. Nous avons Jésus. D'ailleurs, c'est juste l'expression dans la lettre aux Éphésiens, l'expression « être en lui » ou « en Jésus », « en Christ » va revenir plus de 36 fois. Et juste dans le passage, nous sommes en train de regarder verset 3 à 14, il revient plus de 11 fois. En Jésus, en Jésus, en Jésus, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Voici ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on a. Mais il s'est donné lui-même en premier. C'est ça que le point ici. Si vous êtes en Jésus, vous êtes béni de faire partie maintenant de la communion avec Dieu et la communion avec la Trinité, dans le fond. On va voir la personne, les trois personnes de la Trinité ici qui bénissent. On voit le Père bénir au verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. On voit Jésus qui nous bénit. Verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Christ, par Jésus. Verset 13, Saint-Esprit nous bénit. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est un gage, dans le fond, qui a été promis. C'est un gage de notre héritage. Saint-Esprit nous bénit. Alors, nous avons Dieu avec nous. Nous avons la bénédiction d'avoir Dieu avec nous. Alors, avant de faire les cieux et la terre, Dieu avait planifié de nous connaître, de nous aimer, de nous sauver et de nous bénir. Parfois, on ne se sent pas comme ça. Parfois, par des choses qu'on peut vivre, des situations qu'on peut vivre, des épreuves, bon sang, lorsque tu regardes à travers la fenêtre de ta vie, des circonstances, c'est sûr que ça va nous affecter. Je pense à cette femme là, qui a été après, qui a essuyé un divorce après 20 ans de mariage. Et ça, c'est difficile. Tu as bâti ta vie. Là. 20 ans, c'est un gros morceau de ta vie, ça. Et voilà qu'après 20 ans, son mariage s'est dissous, c'est fini. S'est remarié avec un autre homme, c'est encore pire, le deuxième mariage. L'homme était violent, même la pourchassait de temps en temps. Il y avait vraiment c'était grave, là. C'était dur. Deuxième mariage, fini. En plus, elle avait bâti une belle entreprise, une belle compagnie, il y avait du succès. Ça allait bien, ses finances. Mais là, elle a commencé à avoir, elle a eu un employé dans son entreprise qui a commencé à saboter son entreprise si bien qu'elle a tout perdu. Elle a tout perdu. Mais son entreprise, tout. La semaine où elle a appris que son commerce venait de dissoudre, c'était fini, la même semaine qu'elle a appris le constat, le bilan financier, que c'était un échec total, la même semaine, son fils de 24 ans meurt par une crise cardiaque. Et dans la même semaine qu'elle apprend que son fils de 24 ans meurt, dans la même semaine, elle apprend qu'elle doit sortir de sa maison pour vendredi. Tout perdu. Deux mariages échoués. Son fils meurt. De 24 ans, un jeune. Business qu'elle a travaillé pendant des années à développer, à bâtir, fini. Puis elle perd son foyer, perd sa maison. Comment tu te sens face à ça? Il me semble... Tu as tout perdu, littéralement tout perdu, là, écrasé. Et là, ce qui arrive, quand tu commences à avoir des épreuves comme ça, qu'est-ce qui arrive? Tu commences à avoir des remises en question. Elle a eu, oui, des remises en question envers Dieu. Elle trouvait Dieu injuste, elle ne comprenait pas, elle avait pourquoi. Dans ce temps-là, tu poses tellement de pourquoi, tout à fait normal. Mais là, tranquillement, les questions sont virées vers elle, puis on dit, pour moi, je ne suis pas assez bonne. Pour moi, je n'ai pas été assez fine. Pour moi, je n'ai pas assez faite pour Dieu. Puis elle a commencé à se sentir coupable, elle a dit, elle a commencé à se descendre, à se dévaluer, puis commencer à dire, tiens, c'est de ma faute. C'est de ma faute si tout ça est arrivé. Jusqu'au jour où elle a commencé à regarder la Bible, étudier la Bible et voir comment Dieu la voyait. Elle a commencé à réaliser les bénédictions qu'elle avait vraiment en Jésus-Christ. Puis il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur a commencé à changer d'attitude. ce côté amer qu'elle avait, ou ce découragement, ces sentiments de culpabilité, d'écrasement, a commencé à disparaître. Et quelque chose s'est produit dans son cœur qui a commencé à avoir une guérison. Puis elle a littéralement, à mesure qu'elle regardait comment Dieu l'aimait, il lui avait fait du bien, et si Dieu l'aimait, ça ne dépendait pas de ce qu'elle pouvait faire ou comment elle pouvait gagner l'amour de Dieu. Non, il avait déjà prouvé son amour en envoyant son Fils à la croix. Alors, à mesure qu'elle commençait à croire par la foi, et voici ce qu'elle a dit, elle a dit, j'ai commencé à croire à la souveraineté de Dieu. Ce Dieu-là m'aime, ce Dieu-là me veut du bien, et malgré ce qui se passe dans ma vie en ce moment où j'ai tout, littéralement, tout perdu, je sais que Dieu est souverain, il sait ce qu'il fait, puis il est en train de faire quelque chose de beau dans ma vie. Imagine! Et ça, c'est gros, là. C'est pas juste comme quelqu'un qui parle que tout va bien dans sa vie, là, qui parle. C'est quelqu'un qui a littéralement tout perdu. Perdu deux mariages, sa business, son fils, sa maison. Et cette personne-là dit, « Moi, je crois que Dieu est souverain et il veut mon bien. » Imaginez. Vous savez ce qu'elle a commencé à faire, cette femme-là? Dans le fond, elle est en train de regarder sa vie à travers la fenêtre de Dieu. Ce qu'on a besoin d'apprendre à faire, bien-aimé. Regarder notre vie à travers la fenêtre de Dieu. Et littéralement, son cœur a commencé à être rempli, à le retrouver de la joie dans son cœur. Est-ce que c'est possible? Tout perdre, puis retrouver de la joie? C'est tout à fait possible, c'est arrivé avec cette dame-là. Parce qu'elle a commencé à voir sa vie à travers la fenêtre de Dieu. C'est ça qu'on a besoin. Aussi longtemps qu'on regarde à travers notre fenêtre, cette femme-là, ça ne serait pas allé. Si elle avait regardé à travers sa vie, à travers sa fenêtre, ça n'aurait pas été bien. Elle aurait resté dans le découragement, dans la déprime, d'avoir tout perdu. Mais elle a commencé à regarder sa vie à travers la fenêtre de Dieu. Et c'est là qu'elle est sortie du découragement, qu'elle a retrouvé de la joie. Savoir que Dieu était présent lui procurait de la paix à cette dame-là. Elle s'est réjouie de savoir que Dieu préparait un foyer encore plus beau dans l'éternité pour elle. Qu'elle était pour avoir une maison, et toute une maison, toute une résidence au ciel un jour. Alors, c'est facile pour nous d'oublier les bénédictions de Dieu lorsqu'on passe à travers des moments difficiles. Mais Paul veut nous rappeler. Il veut nous rappeler, et même si ça va super bien dans ta vie, prépare-toi à ça. Prends cette habitude-là, cette coutume-là de voir ta vie à travers la fenêtre de Dieu et de te rappeler les bénédictions spirituelles qu'on a. Alors, faisons confiance à Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu pour ce qu'on a en lui. Alors, nous sommes bénis d'avoir Dieu, et je suis également béni d'avoir reçu la sainteté, qui est un don de Dieu. Ça vient de Dieu, ça, verset 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. C'est un don, ça. Ça, c'est ta position devant Dieu, même si dans ton cœur, nous sommes pécheurs. Jésus, par son sacrifice, nous a transféré sa sainteté. Alors, commençons à vivre dans la sainteté, parce que c'est ce que tu es. Abandonne le péché et commence à progresser de mieux en mieux, parce que c'est ça que tu as reçu, qui t'a été imputé par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ce que tu es. C'est notre position devant Dieu. Aux yeux de Dieu, nous sommes maintenant saints, car nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons reçu la sainteté de Christ. Alors, au niveau pratique, ce que ça signifie, c'est qu'on a de nouveaux désirs, qui nous ont été placés dans le cœur par le Saint-Esprit, un nouvel appétit. C'est fascinant de voir comment les gens, lorsqu'ils viennent à Jésus-Christ, le lendemain, ils arrêtent de sacrer. C'est pas comme si tu fais un effort, on dirait, il y a quelque chose, c'est comme si, moi, c'est ça qui est arrivé avec moi. C'est le lendemain, mon ami, je me suis converti, j'étais plus capable de sacrer. Ça a disparu complètement mon vocabulaire. C'est comme si mon vocabulaire a perdu au moins 50 mots d'une shot. C'était fini. Ça, le langage change. Et c'est le témoignage hein, de tout le monde qui sont venus à Jésus-Christ. Ton vocabulaire change. C'est pas moi qui ai essayé de faire un effort. Je vais essayer de m'améliorer pour mieux parler, moins sacré. C'est du jour au lendemain, c'est parti. Il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, ce changement-là, cette sanctification-là qui commence dans nos vies. Alors, on est béni d'avoir Dieu, d'avoir reçu la sainteté, puis d'avoir été prédestiné aussi. Ça, c'est une troisième bénédiction qu'on voit ici, la bénédiction de la prédestination. Verset 5, il nous a prédestinés en son amour. Dieu a choisi de nous donner son amour, déverser son amour sur nous, avant même la fondation du monde. On l'a chanté tantôt, hein? On l'a chanté. Un des cantiques qu'on chantait, justement, alors que à la création, hein, alors que Dieu façonnait la création, déjà, j'étais près de son cœur. On l'a chanté, ça, tantôt. Déjà, il parlait de nous autres. Il avait décidé de déverser sa joie sur nous, sa grâce, de nous connaître, de répandre sur nous son amour. Alors, quand on parle de prédestination, c'est évident, il y a toutes sortes de questions qui commencent. Ah oui, mais comment ça se fait? Puis ça, là, puis ça c'est sûr, c'est tout à fait normal. Puis, honnêtement, je n'ai pas les réponses. J'aimerais avoir les réponses. Ça, c'est peut-être une des questions qu'on va pouvoir certainement poser au ciel, mais c'est un vrai mystère, toute la question de la prédestination. Mais au lieu, on peut faire. Moi, en tout cas, ce que je préfère, c'est célébrer la prédestination. La célébrer. Dire, Seigneur, bon sang, je ne comprends pas, mais ça me rappelle juste comment toi, tu es Dieu, puis moi, je ne suis pas grand-chose. Je veux célébrer ça, la prédestination. Pourquoi Dieu, avant la fondation du monde, a décidé de déverser son amour sur nous autres? Alors, comment Dieu accomplit ça? C'est par le sacrifice de Christ, par la puissance du Saint-Esprit et aussi par la prédication de l'Évangile. Et ça, c'est tout un encouragement pour nous autres de se rappeler que lorsque tu donnes la bonne nouvelle, c'est que Dieu est déjà en train de préparer des cœurs. Dieu est en train de faire une œuvre. tout un encouragement. Dieu a choisi de nous connaître, de nous aimer, de nous chercher, de nous pardonner, d'entrer en intimité avec nous autres. Alors, nous sommes bénis d'avoir Dieu, d'avoir reçu la sainteté, d'avoir été prédestinés. Et aussi, une autre bénédiction, c'est la bénédiction de l'adoption. Verset 5, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que, verset 6, nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Alors, Dieu est le Père céleste. Et si vous êtes en Jésus-Christ, ça signifie que vous avez été adoptés dans sa famille. Il a fait de vous son enfant. Et ça, cette notion-là de paternité, de père personnel d'intime, on ne la voit pas dans l'Ancien Testament. Dieu n'est pas appelé père dans l'Ancien Testament. Il est appelé juste 6 fois père. Puis chaque fois, c'est plus générique. Ça parle de le père de la nation d'Israël. Mais c'est Jésus-Christ qui a introduit ça dans le Nouveau Testament. 14 fois dans l'Ancien Testament où Dieu est appelé Père, puis c'est toujours impersonnel. Mais dans le Nouveau Testament, plus de 60 fois, on voit Dieu comme étant notre Père. Alors, on parle ici de papa, de Père. On voit cette notion-là d'intimité. Personne encore n'avait parlé de Dieu dans ces termes-là avant l'arrivée de Jésus-Christ. Comme un enfant qui parle de son Père. 5e bénédiction, la bénédiction de la rédemption. Rédemption, ce n'est pas un terme qu'on entend souvent, ça, la rédemption. Mais on a besoin de s'arrêter là-dessus. Quelques termes dans le Nouveau Testament. C'est emprunté dans le domaine légal, juridique, dans l'Empire romain. 6 termes, en fait, qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament qui étaient utilisés dans les domaines légaux. Par exemple, le mot « juste ». On voit ici le mot « juste » qui signifie dans 1 Corinthiens 6,11, qui désigne un acquittement légal d'une accusation. 1 Corinthiens 6,11, ça dit, vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus par l'Esprit notre Dieu. Justifié, le mot juste. Lorsqu'on vient à Jésus-Christ pour avoir son salut, Dieu nous déclare juste, non coupable. Nous sommes acquittés par le sacrifice de Christ. 2e mot, c'est le mot pardonner aussi, un autre terme qu'on va voir dans le domaine légal. On l'utilisait pour désigner le remboursement ou l'annulation légale d'une dette ou l'octroi d'un pardon. On va le retrouver dans le Nouveau Testament à l'endroit des chrétiens pour désigner le pardon de nos péchés, de cette faute, des fautes qu'on a, de la dette qu'on a envers Dieu à cause qu'on a péché. On voit dans Romains 4, 7, « Heureux, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, heureux, et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » 3e mot, c'est le mot « adoption » qu'on a vu tantôt. Ça désigne tout le processus légal d'un enfant. Et Paul se sert de l'expression lorsqu'il parle de l'adoption du croyant qui est maintenant adopté dans la famille de Dieu. Galates 4 qui dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Un autre terme, c'est le mot réconciliation, un terme qui signifie réconcilier légalement deux parties au tribunal. Paul va utiliser cette expression-là pour parler de la réconciliation d'un croyant avec Dieu par l'entremise de Jésus-Christ. On lit ça dans Romains 5, 10, il dit « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par sa mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Un autre terme, c'est le terme « racheter ». L'idée est celle d'un marché. On parle de commerce. On achète quelque chose, il n'est plus disponible, il est à la propriété d'un autre. Et ça veut dire aussi libérer, liberté. Galates 3, 13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi ». Un autre terme, c'est le terme « rédemption ». Ça signifie la libération de la captivité. Une image très bien comprise dans le Nouveau Testament à l'époque, dans l'Empire romain, il y avait plusieurs millions d'esclaves, plus de 6 millions d'esclaves. Et lorsqu'on libérait un esclave, quelqu'un qui les aimait, déboursait de l'argent, payait pour eux, pour les libérer, il achetait leur liberté, payé par un montant, par un paiement. Et c'est ce que ça veut dire, appliqué aux chrétiens. Ça veut dire que Jésus s'est offert en sacrifice pour le paiement, pour notre paiement, pour nous libérer de l'esclavage du péché. Nous lisons dans Galates 5, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. En d'autres mots, vivez dans votre liberté en Christ. La bénédiction. Je suis béni. Nous sommes bénis. Nous avons la bénédiction d'avoir Dieu lui-même avec nous. Nous avons la bénédiction de la sainteté. On a la bénédiction de la prédestination. Nous avons la bénédiction de l'adoption. Nous avons également la bénédiction de la rédemption. Bénédiction du pardon aussi. La bénédiction du pardon, verset 7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Imaginez, la culpabilité n'a plus sa raison d'être si vous êtes en Jésus-Christ. Vous arrivez à Jésus-Christ, vous déposez ce mal-là, et c'est effacé par le sacrifice de Christ. Ce péché-là, effacé. On n'a pas à traîner de la culpabilité. Il y a une étude qui a été, je pense que c'est Harvard qui avait fait ça récemment, qui a démontré que tout le monde regrette une chose. Tout le monde. Ils ont fait des études là et tout le monde regrette au moins une chose, à quelque part, dans leur vie, une gaffe qu'ils ont faite. Fait qu'on peut dire que nous avons tous, on se sent tous coupables à quelque part. On peut faire toutes sortes de choses avec la culpabilité, on peut l'étouffer, tout ça. Mais ce péché, le péché que tu as fait, lorsque tu viens à Christ, tu la déposes à la croix. Tu la déposes, Jésus l'a pris sur lui à la croix. Une autre bénédiction, la bénédiction de la grâce, évidemment. Paul continue, verset 7, la grâce de Dieu, va nous parler de son amour, il nous a fait la grâce d'être sauvés et de nous révéler son salut. C'est par la grâce de Dieu que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ, on a été réconciliés avec Dieu. Paul parle de la grâce plus de 100 fois dans ses lettres, 100 fois. Ça, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup de la grâce, c'était bien Paul. Paul, d'ailleurs, ouvre toutes ses lettres et conclut toutes ses lettres avec la grâce. En Jésus-Christ, nous sommes graciés, on a été choisis par la grâce, sauvés par la grâce, gardés par la grâce, nous avons été doués par la grâce, fortifiés par la grâce, on grandit par la grâce, on a été sanctifiés par la grâce, on continue à être sanctifiés par la grâce, on persévère par la grâce, et un jour on va voir Jésus-Christ face à face par la grâce. La bénédiction d'être scellé de l'Esprit aussi, une autre bénédiction, Paul fait référence ici dans ce passage, magnifique passage, verset 3 à 14. Dans l'Antiquité, les propriétaires plaçaient leur sceau. C'est leur signature, disaient ça, c'est à moi, plaçaient un sceau. Et lorsque Dieu a placé le Saint-Esprit en nous, c'était Dieu qui plaçait son sceau sur nous. On lui appartient. Verset 13 dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Et ce que ça veut dire, c'est qu'on appartient au Seigneur, on est à lui. Et le passage nous dit que le don de la personne du Saint-Esprit, c'est le début d'un héritage qui s'en vient. En d'autres mots, voici comment, à quel point nous sommes bénis, mais bon sens, ce que Paul est en train de dire, c'est que c'est juste un échantillon de ce qui s'en vient dans l'éternité. Un échantillon. On va tellement être bénis dans l'éternité. C'est juste l'entrée. C'est le festin qui est à venir. Alors, pourquoi Dieu nous bénit tant? Eh bien, Paul le dit plus de trois fois, ça va revenir. Il va dire, bien, c'est pour célébrer la gloire de Dieu, verset 6. Célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Verset 12 encore, il va le répéter, afin qu'on célèbre, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Et verset 14, il revient avec ça, c'est pour célébrer sa gloire. Alors, il nous a bénis pour célébrer sa gloire. Il nous a bénis de ça, c'est pour célébrer sa gloire. Il nous a bénis par l'adoption, c'est pour célébrer sa gloire. Il nous a bénis par la prédestination, c'est pour sa gloire. On a vraiment raison d'adorer Dieu et de chanter très fort des cantiques parce que Dieu nous a tellement bénis en Jésus-Christ. Vous savez, lorsque je suis arrivé ici dans la région, ça faisait plusieurs années que je n'étais pas venu. La dernière fois que j'étais venu, je pense que c'était dans les années, ça faisait plusieurs années. Moi, je ne connaissais pas ça, le parc de Gatineau et tout ça. Quand je suis arrivé, mon beau-frère m'a fait la tournée, il s'est promené. Puis il dit, normalement, je vais te montrer quelque chose d'extraordinaire. Alors, il m'a pris, Lise, on est allés ensemble, il m'a emmené tout à fait en haut, là. Puis il y a un belvédère en haut. Hein? Vous connaissez le belvédère? Le belvédère Champlain? Est-ce que tout le monde a vu le belvédère Champlain? Si vous n'avez pas vu ça, là, écoutez, là, c'est faux, il ne faut pas manquer ça. Là. Il m'a emmené en haut du parc Gatineau pour me montrer, il dit, regarde. Il dit, regarde Gatineau, dans son ensemble. Moi, quand je suis sur le boulevard Saint-René, je ne vois pas Gatineau comme ça. Hein? Tu vois petit. Tu vois juste petit. Mais quand il m'a emmené en haut sur le belvédère, Champlain, il me dit, tiens, regarde où tu restes. Regarde tout ça. Là. Puis regarde, on va à Ottawa. Les lumières, tout ça, c'était fantastique. Vois-tu, ce que Dieu essaie de faire dans ce passage, verset 3, verset 14, c'est de nous faire voir notre vie à travers la fenêtre de Dieu. Il nous emmène sur le belvédère du ciel, puis il nous dit, regarde-moi ce que j'ai fait pour toi. Regarde ce que tu as en Jésus-Christ. Regarde tout ce que tu as. Est-ce pas incroyable? Est-ce que ce n'est pas incroyable? Et on veut partager ça. On veut partager aux autres cela. On veut se laisser remplir notre cœur de ces vérités-là et se les rappeler. Et moi, j'aimerais vous lancer un défi cette semaine. Tu veux avoir un bon temps de prière puis de louange? Reprends ce passage-là, les versets 3 à 14, puis commence à prier. Puis commence à dire, merci Seigneur parce que tu as fait ça. Tu peux les nommer, là. Tu peux les nommer. On les a nommés ce matin. On en a plusieurs. Là. C'est plusieurs bénédictions. Dieu t'a béni de ça. Si tu es en Jésus-Christ, c'est ça que tu as. Et commence à dire, merci Seigneur parce que tu m'as béni de toi, de te faire connaître. Puis tu commences à dire « Seigneur, merci », puis tu commences à louer « Seigneur ». Voici ici les bonnes raisons, 8 raisons pour remercier le Seigneur cette semaine. Et je vais vous dire, comme cette dame qui avait tout perdu, va retrouver de la joie dans son cœur. Amen. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous aider à voir, en nous emmenant sur ce belvédère, le belvédère céleste, qui nous aide à voir tous les bienfaits, les bontés, les bénédictions que tu nous as accordées. On a besoin, Seigneur, de nous rappeler, de voir notre vie à travers la fenêtre de Dieu. Parce que là, on va se rappeler tous les bienfaits que tu nous as accordés, les bénédictions que nous avons. Nous te louons, Seigneur, nous te remercions pour ça. Aide-nous à nous rappeler ces choses et à partager ces belles choses avec ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus. Amen.